Bonjour Bernard Vandenberg.
Bonjour.
Nous vous retrouvons pour un deuxième volet, un deuxième entretien avec vous. Vous nous avez parlé dans un premier échange de votre expérience comme éducateur adjoint de direction en charge du lieu de vie, de la pastorale et du suivi des élèves dans l'établissement Saint-Christophe à Masseube. Aujourd'hui avec vous, nous allons parler de cet ouvrage que vous avez publié récemment, « Chemin d'éducation chrétienne, l'éducation passion d'espérance ». Vous qui êtes éducateur depuis plus de 40 ans, cet ouvrage raconte certainement, enfin vous allez nous le dire, toute votre expérience et le regard que vous avez sur l'éducation. D'abord, pourquoi est-ce que vous avez eu ce désir de publier cet ouvrage, Chemin d'éducation chrétienne ?
Oui, alors le désir est... Je ne suis pas quelqu'un qui aime écrire au départ. J'ai même... Pour l'anecdote, un prêtre du séminaire, parce que j'ai fait 3 ans de séminaire à Toulouse dans les années 86-90, qui m'avait dit « Bernard, ton écriture est pitoyable ». Donc c'est pour dire, il y a des mots comme ça qui marquent les esprits.
Sympa comme correction fraternelle.
Exactement, ça marque les esprits. Et il s'avère qu'il y a quelques années, j'ai été opéré d'une prothèse du genou droit, qui a été très longue, et je me suis un peu morfondu. Et donc ma femme, quand elle a su que je devais passer à l'opération de la deuxième jambe, pour la même chose, m'a dit « Bernard, tu es quelqu'un de passionné et de convaincu en éducation. Il faut que tu mettes par écrit tout ce que tu sais, ne serait-ce que pour laisser une trace pour tes filles. » Donc c'était la première des choses, éviter de sombrer en dépression et d'être capable de m'occuper pendant les 5 mois de convalescence de cette deuxième opération. Voilà l'origine de ce livre.
Quel est le message que vous avez voulu transmettre, alors à vos filles d'abord, mais à toutes les personnes qui vont lire ce livre ? Quand on voit l'éducation, passion d'espérance, on se dit que... Alors soit ça tombe à point nommé dans le contexte actuel, ou alors c'est un peu de la provoque. On peut se dire que c'est difficile de voir de l'espérance dans l'éducation, alors que souvent on entend plutôt des témoignages assez négatifs sur l'expérience d'enseignants, d'éducateurs, en se disant c'est dur, les jeunes sont durs, les jeunes sont fatigants. Et vous, vous nous parlez d'espérance. Éducation égale espérance. C'est étonnant quand même.
Tout à fait, mais comment dire, c'est une conviction profonde. Si un éducateur chrétien n'est pas convaincu qu'un jeune, c'est une pépite, dont il faut trouver la petite clé qui permet d'ouvrir la porte et permettre à cette pépite de resplendir et de pouvoir donner ce qu'il en est, on ne peut pas être éducateur. Oui, c'est dur. Oui, c'est difficile avec certains jeunes. C'est peut-être aussi très difficile et peut-être plus difficile avec certains parents qui ont des enfants dont on protège coûte que coûte et qui a forcément raison. Et nous, on a tort. Mais notre mission première en éducation, c'est cette passion d'espérance, c'est-à-dire de croire que ce jeune est capable de se développer. Et je fais appel à ça, pour cela, au pape François, au pape Jean-Paul II, pardon, qui avant s'appelait Karol Wojtyla et qui a écrit un livre, Acte, Personne et Acte. Et c'est toute l'ambivalence dans notre métier d'éducation, c'est d'être en situation de condamner et de corriger les actes posés par les personnes, que ce soit des paroles, que ce soit des mots, que ce soit des gestes, mais de tout passer son temps à construire la personne, à croire que cette personne est capable d'évoluer. L'acte ne fait pas la personne. Donc faisons cette différence, et c'est ce que j'essaie de crier quelque part dans ce livre, c'est de dire oui, la personne est un trésor qu'il faut déployer en corrigeant les actes, parce que c'est ce qui ne permet pas d'avancer, de construire dans la joie.
En 40 ans d'expérience, alors quasiment tout le temps au sein de cet établissement Saint-Christophe à Masseube, hein, puisque vous y êtes depuis 1991 avec une période où vous êtes parti pour travailler au sein du MEJ, qu'est-ce que vous avez constaté ? Quelles sont les choses qui ont vraiment fondamentalement changé dans cette manière d'éduquer, dans cet accès à la jeunesse ?
Alors je pense qu'il y a, au niveau des jeunes, je pense qu'au départ, quand je suis arrivé à Saint-Christophe, on avait essentiellement des jeunes qui venaient de familles rurales, agricoles, d'agriculteurs, etc. Et on avait des jeunes qui étaient, dont les parents étaient vraiment dans une solidarité d'éducation avec l'équipe de Saint-Christophe. Et puis, on est arrivé petit à petit à un changement de population du fait d'un recrutement difficile dans le milieu agricole pour le métier de l'agriculture. Et aujourd'hui, on est malheureusement dans des familles où on choisit l'enfant et l'enfant devient roi. Donc l'enfant est mis en exergue. Et quand on a un trésor et qu'on le pense être un roi, eh bien forcément, on lui cède tout. Et toute la difficulté, je pense, dans notre métier d'éducation aujourd'hui, c'est de pouvoir travailler avec les familles, de développer cette notion de confiance en essayant de convaincre les familles qu'on n'est pas là pour casser le jeune, on est là pour le construire. Mais ça n'empêche qu'on essaie d'être objectif dans notre manière de voir les choses. Et l'enfant, malheureusement, est dans une parole de plus en plus de mensonge. Je dis pas l'enfant est menteur. Pour reprendre personne et acte, je dis dans une parole de mensonge, parce qu'on essaie de se sauvegarder, de se préserver d'une sanction, alors que je suis tout à fait conscient de ce que je fais. Et donc tout le travail, c'est d'arriver à dire et à apprendre aux jeunes à savoir dire la vérité, même si c'est difficile, parce que c'est le seul moyen que l'on a de pouvoir se remettre en cause. Tant que je suis dans le mensonge, ma tête dit « mais j'ai rien à changer, puisque de toute façon, je m'en suis sorti ». Et très souvent, c'est ce que je dis aux jeunes, tu peux me mentir dans le bureau, mais dans un quart d'heure, ou dans une heure, ou dans 15 jours, ou dans 3 semaines, je te reverrai parce que tu auras recommencé. Alors que si tu es dans une parole de vérité, tu te remets en cause et tu te construis. Donc c'est cette patience-là qui est nécessaire.
En préparant cet entretien, vous me disiez en aparté qu'il s'agit en fait de passer des commandements, des 10 commandements, aux béatitudes. J'ai trouvé cette parole-là très intéressante. Est-ce que vous pouvez l'expliquer pour les auditeurs ?
Tout à fait, c'est ce que j'ai essayé de prendre en relecture du livre, c'est-à-dire je me suis appuyé sur la parole de Dieu. Donc je commence avec tout ce qui est des 15 premiers chapitres de la Genèse, mais j'essaie aussi de montrer qu'il y avait une sacrée pédagogie de Dieu dans la Bible. Et ça, c'est le père Louis Saintas, jésuite, quand j'étais au séminaire, qui m'avait fait toucher du doigt cette question, c'est-à-dire que si on regarde tout l'Ancien Testament et on en arrive au Nouveau Testament, c'est tout un travail d'éducation et d'évolution du cœur de l'homme qui passe d'un « je me méfie de Dieu, Dieu punisseur, Dieu vengeur, etc. » et qui nous amène petit à petit à passer jusqu'à l'accueil de la loi de Moïse avec les 10 commandements. « Tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. » Il y a un travail du cœur qui nous amène jusqu'à l'accueil du Christ, qui nous invite à être bienheureux si. Et je pense que tout le travail d'éducation, c'est d'arriver à passer du « tu ne dois pas » à « bienheureux si ». Voilà. Et c'est l'appel du Christ qui est là derrière. C'est-à-dire comment permettre à tous ces jeunes de passer du « tu ne dois pas » avec un règlement qui est très clair et qui doit être accepté, à « bienheureux si tu fais les choses naturellement sans te poser la question parce que tu es dans une réponse de solidarité, d'amour à la manière du Christ. »
Donc ça veut dire qu'on est quand même obligé de passer par des règles, par un cadre, par des choses très concrètes qui marquent l'autorité ou la discipline pour parvenir à une relation de confiance spontanée et naturelle, c'est ça ?
Mais tout à fait. Après, chacun le vit à son rythme. C'est l'échelle de David. Chacun monte à son rythme vers le paradis. Et je pense que dans notre vie d'éducation, d'éducateur auprès de jeunes, c'est de comprendre que chaque jeune avance à son rythme. Et pour certains, il faut de la rigueur, de la règle, de l'autorité, de la sanction pour pouvoir petit à petit à l'amener à. Mais ça doit passer par une réflexion. Un jeune qui vient dans mon bureau, je lui fais une demi-heure de morale, il va ressortir, il va me faire me dire ce que j'ai envie d'entendre en disant « mais au moins je vous ai fait plaisir et je peux sortir du bureau le plus vite possible ». Ce que j'ai mis en œuvre, et il y a un petit chapitre là-dessus, c'est ce qu'on appelle des arrêts sous l'arbre, c'est-à-dire un temps où le jeune qui a par exemple été en situation de tricherie, je lui donne un arrêt sous l'arbre avec des questions spécifiques, un peu à la pédagogie du Mège, c'est-à-dire tu poses un regard sur ta vie avec des questions spécifiques. Tu vas prendre du recul avec des textes qui te permettent de comprendre et tu en arrives à un choix pour toi. Et donc ça, c'est seul, face à lui-même, avec ce livret, il tourne et il passe les questions les unes après les autres. Et je ne le vois qu'une fois qu'il a rempli cet arrêt sous larmes, donc c'est trois quarts d'heure, une heure et demie de travail, à condition qu'il l'ait bien fait. Et je reprends et je relis avec lui le document pour reprendre certains points et être en situation de pouvoir l'aider à se construire. Et là, la décision, ce n'est plus une parole pour me faire plaisir, c'est une décision pour lui qui s'est remis en cause face à lui-même. Alors ça, c'est très difficile à faire parce que les jeunes ont un peu de mal. Tout ce qui est introspection, discussion, réflexion n'est pas facile, mais je pense que c'est le chemin incontournable pour pouvoir arriver à réussir plus vite la progression du jeune du « tu ne dois » à « bienheureux si ».
Alors, vous parlez d'autorité, de discipline, de cadre. Vous comprenez que dans le contexte actuel, ce sont des mots qui vont faire peut-être bondir nos auditeurs en disant « bah oui, mais on sait ce que ça donne ». Et les dérapages de l'autorité, de la discipline, alors qu'en fait, un jeune, et vous-même vous le disiez au début, a besoin simplement de voir qu'on a confiance en lui, qu'on est bienveillant. Est-ce que autorité et bienveillance ne sont pas incompatibles ?
Absolument pas. L'autorité ne doit pas être de la dictature ou de la possession du jeune. On n'a pas, dans notre position d'éducateur, à vouloir prendre possession de celui qui est en face. L'autorité, c'est construire. Éducarer, c'est faire grandir, faire pousser. Et mettre l'autorité, c'est le tuteur qui est au pied de l'arbre fruitier, par exemple. Le jeune est marqué, le tuteur est marqué. Mais le tuteur laisse l'arbre grandir, le fait avancer. Et mettre un cadre, c'est sécuriser, c'est donner une sécurité au jeune. Donc, si je mets un cadre dans le respect du jeune, dans le respect par la parole, par les gestes, etc., je permets aux jeunes de se sentir en sécurité. Et les jeunes cherchent le cadre aujourd'hui, contrairement à ce que la société nous laisse entendre. Ils cherchent le cadre parce qu'ils se sentent en sécurité, ils se sentent bien. Et ici, à Saint-Christophe, on le voit, quand le cadre est bien mis et qu'ils voient des éducateurs qui sont là pour eux, qui les écoutent, il y a des paroles qui se libèrent, il y a des choses qui se disent et qui nous permettent de construire le jeune et de le faire avancer. Alors, l'autorité ne doit pas devenir possession. Et c'est ça le drame d'aujourd'hui, avec des personnes qui ne savent pas respecter le jeune dans ce qu'il est. Et ça, c'est inadmissible. Ça crée des souffrances qui après rejaillissent. C'est un peu comme la parole de tout à l'heure du père qui certainement l'a fait sans aucune méchanceté, mais quand il dit ton écriture est pitoyable, mais ça vous marque, ça vous trace.
Parce que des années après, vous vous souvenez de cette parole, vous.
Exactement. Il y en a une autre aussi qui m'a marqué. J'en parle pas dans le livre parce que je commence par relater un petit peu mon parcours. J'ai le scoutisme qui est derrière, j'ai le mèche qui est derrière avec toutes les actions. Mais il y a des phrases, des marques, des gestes qui se posent et qui marque le jeune, tout adulte, même nous. Et ça nous demande après de pouvoir les dépasser, parce que ce n'est pas en vivant dans le passé que l'on arrive à avancer, c'est en se projetant. Mon histoire, elle est mon histoire, avec les drames que j'ai pu vivre, et j'en ai vécu, mais ces drames viennent nourrir et m'enrichir quelque part, alors c'est des paroles un petit peu compliquées à comprendre, mais m'enrichir dans ma capacité à pouvoir comprendre l'autre. Et toutes les souffrances et tout ce par lequel je suis passé me donnent peut-être des atouts supplémentaires qui me permettent dans mon travail de pouvoir être à l'accueil et à l'écoute de tous, avec forcément des erreurs, parce que c'est inévitable, nous sommes que des humains.
Quel est, pour terminer, Bernard Vandenberg, allez, votre espérance, on est dans l'année du jubilé, pèlerin d'espérance, c'est le sous-titre de votre ouvrage, l'éducation, passion d'espérance. Quelle est l'espérance qui vous motive chaque matin à revenir dans cet établissement Saint-Christophe? Quand vous voyez le regard de ces jeunes, dont certains sont en souffrance parce que l'adolescence et la jeunesse, c'est une période quand même qui n'est pas facile à traverser, même quand tout va bien dans sa famille, c'est quand même un âge où les choses paraissent quand même lourdes. Quelle est l'espérance que vous avez pour eux? Quelle est l'espérance que vous les aidez à nourrir au fond de leur cœur?
Alors, je partirai d'un exemple que j'ai partagé avant l'interview avec vous, ça m'est arrivé ma deuxième année de présence à Saint-Christophe en 1992, où j'ai accueilli un élève. Et dans ma bonne idée, j'ai demandé à tous les parents, devant leur enfant, de se présenter. Et lorsqu'on est arrivé à cet élève-là, à l'époque, la maman a dit « Ah, mais si je le mets là, c'est pour m'en débarrasser. Si j'avais su ce qu'il allait donner, j'aurais mieux fait d'avorter. » Donc ça a été un drame terrible. Et je me suis dit « Mais mon Dieu, pauvre gamin !» Et en fin de compte, 2 ans après, la maman est revenue me voir et m'a dit « Merci, tu m'as appris à aimer mon enfant. » Alors c'est une parole forte, c'est un travail d'équipe qui a été fait derrière, ça c'est important. Mais c'est ça, cette espérance, c'est-à-dire d'arriver à penser que pour chaque jeune, quelles que soient ses capacités, il est capable de pouvoir réussir et construire sa vie. C'est la mission de Jean-Baptiste de La Salle, quand il était à Reims et qu'il voyait ses enfants dans les rues qui traînaient. Sa mission, quand il a monté les écoles, c'était de croire qu'en leur apprenant à écrire, à compter, ils seraient capables de s'insérer dans la société. Et notre mission, elle est là. Cette espérance, c'est de croire que tout jeune, quel qu'il soit, est capable de réussir sa vie à son niveau, avec ses capacités. Pas viser Mars quand on peut atteindre que la Lune, mais pouvoir viser Mars quand on ne croit pouvoir aller que sur la Lune et qu'on a les capacités d'aller plus loin. Donc c'est ça notre mission, c'est d'éveiller en chacun cette capacité de pouvoir réussir.
Un grand merci Bernard Vandenberghe pour cette parole d'espérance et cette parole d'espérance dans l'éducation et avec nos jeunes. Merci beaucoup. On vous retrouve dans un prochain volet. Vous nous parlerez encore d'espérance puisqu'il s'agira d'un concours photo, lié à la démarche synodale du diocèse du Gers en sortie sur des terres d'espérance. À bientôt.
À bientôt et merci.